Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Les Nombres, chapitre 11. Alors c'est une drôle d'histoire que je vais vous raconter ce soir. C'est assez particulier, mais ça caractérise bien, finalement, eh bien, notre monde, notre humanité, ce que nous sommes les uns et les autres. Alors, voilà, 11, nombre 11, versets 1er à 6, et ensuite on poursuivra à partir du verset 31. Le peuple d'Israël murmura, le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi les Juifs, parmi Israël, parmi eux, et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. » Alors vous avez de quoi faire la cuisine. « Maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voit que la manne. » On va reprendre au verset 31. « L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le champ environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de deux coutées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout le jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hataava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi de Kibroth Hataava. Le peuple partit pour Hatzéroth et il s'arrêta à Hatzéroth. Voilà, cette histoire, eh bien, nous parle d'une tragédie qui est arrivée en Israël, alors que les Hébreux étaient libérés d'Égypte, et ils étaient depuis quelque temps, finalement, eh bien, on pourrait dire, à tourner en rond dans le désert. Et le désert, c'est pas là où c'est vraiment le contraire de l'Égypte. Hein. L'Égypte, il y avait de l'eau, il y avait de la nourriture, il y avait toutes sortes de choses en abondance, bien que les Hébreux, eh bien, c'était des esclaves. Alors la condition d'un esclave, dans un empire comme l'Égypte, c'était véritablement une servitude épouvantable. Mais ils avaient à manger. Ils avaient le peu qu'on leur donnait, en tous les cas, ou le peu qu'ils pouvaient se procurer eux-mêmes. Et nous voyons que quand ils sont arrivés dans le désert, plus rien. Plus rien, sauf qu'il y avait quelque chose qui les avait accompagnés depuis leur sortie d'Égypte, c'est-à-dire que ce n'étaient plus les richesses de la terre qui pouvaient les nourrir, les légumes dont nous avons parlé, la viande, sous l'image des cailles. Mais il y avait Dieu qui leur avait fait des promesses, qui ne manquerait de rien dans la traversée de cette épreuve du désert. Et nous voyons que, au bout d'un certain temps, eh bien, les Hébreux se sont impatientés. Ils ont murmuré, il nous est dit, le peuple murmura. Et naturellement, il y avait là, en quelque sorte, comme une sorte de révolte. Vous savez, les gens qui ont faim ou qui ont soif, c'est quelque chose d'épouvantable et ça peut les amener tout simplement, eh bien, avoir des mauvais sentiments. Et là, ils vont s'en prendre à Moïse, ils vont s'en prendre à Dieu. Et nous voyons que lorsque Dieu, naturellement, a vu le peuple se révolter, peut-être qu'il y avait de quoi, mais peut-être pas une révolte quand même. Alors, il nous est dit qu'à ce moment-là, bien, Dieu a décidé de donner une leçon Vous savez, on était sous le régime de la loi à l'époque, hein. C'était terrible. Hein. Ah, c'est très vieux, ça, c'est une histoire qui remonte à 3000 et quelques années, c'est quand même pas d'aujourd'hui. Mais toujours est-il que les choses nous sont données comme un exemple, parce que ça vaut encore pour nous aujourd'hui, non pas le jugement de Dieu, mais la grâce de Dieu. Parce que c'est ça ce qu'il faut retenir, même dans l'Ancien Testament, hein, il y a des choses qui sont difficiles pour les gens qui commencent à lire la Bible, ils se disent « Oh là là, c'est terrible l'Ancien Testament, c'est vrai. » Mais ce qu'il faut y voir, c'est ce que nous révèle le Nouveau Testament, c'est-à-dire que Dieu n'est pas venu pour détruire ceux qu'il a sauvés, entre autres le peuple d'Israël pour le faire sortir d'Égypte, mais il est venu justement pour lui apprendre des leçons fondamentales, que on marche, et notre marche, notre vie chrétienne, notre confiance, eh bien, ne se fonde pas sur ce que nous avons, sur ce que nous possédons, sur ce que nous voyons, mais elle se fonde sur ce que Dieu nous dit. Et c'est vrai que c'est une marche dans l'invisible. Et imaginez-vous ce peuple qui était multiplié par des centaines de milliers de personnes, des femmes, des hommes, des vieillards, des enfants. C'était quand même une certaine épreuve. Alors nous voyons que le peuple a crié à Moïse quand il a vu qu'il y avait un fléau qui était en cours, hein, parce qu'il s'était révolté contre Dieu. Et là, nous voyons que, il nous est dit que Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Donc, il y a eu là un coup d'arrêt qui s'est produit parce qu'il s'était révolté, parce qu'il n'était pas content, parce que finalement, eh bien là, leur condition est devenue insupportable. Et puis, nous avons vu un petit peu plus tard, un peu après, il nous est dit que le lieu où les choses se sont produites, ça s'appelait le nom qui a été donné à ce lieu, c'était tout simplement, eh bien, Ta-Ebera. Excusez-moi, c'est pas facile. Hein. Et ça signifie brûler. Ça signifie tout simplement s'allumer. Alors, il était question d'un feu, on peut comprendre qu'il y a eu quelque chose de ce genre-là. Maintenant, quand on reprend un petit peu plus loin, il nous est dit que le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, parce que quand ils sont sortis d'Égypte, alors il y a eu aussi toute une, on pourrait dire, une transhumance. Il n'y avait pas que des Juifs, il n'y avait pas que des Israélites, il n'y avait pas que des Hébreux, mais il y avait toutes sortes de gens, esclaves peut-être et des hommes libres, qui ont suivi la migration du peuple d'Israël, mais c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et c'était peut-être là d'où venait le problème. Les gens qui ont commencé à murmurer, on n'est pas content, et on suit votre Dieu, et votre Dieu nous abandonne, enfin toutes sortes de choses, hein. C'était vraiment un mécontentement profond. Et il nous a dit que, à ce moment-là, tous ces gens qui avaient été intégrés dans le peuple d'Israël, et qui donc avaient fui l'Égypte, hein, eh bien, il nous est simplement rappelé qu'ils ont été saisis de convoitise. C'est-à-dire qu'ils ont eu un désir qu'ils ne pouvaient pas contrôler, et ils se sont mis finalement, eh bien là, à désirer des choses qu'ils n'avaient plus, et qui a augmenté, tout simplement, eh bien, leur situation. Alors, ils se sont mis à pleurer, il nous est dit, ils recommencèrent à pleurer, ils dirent, qui nous donnera de la viande à manger? Et puis, nous avions du poisson quand nous étions en Égypte. C'est sûr que l'Égypte, c'était un pays où il y avait le grand fleuve de l'Égypte, enfin, de le Nil, et qui faisait que, bon, il y avait profusion d'abondance, puis alors avec toutes sortes de choses. Et ils finiront par dire, maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux voient que la manne. Parce que Dieu leur avait donné quand même une promesse, et une promesse qui se réalisait tous les jours, c'était la manne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bible, hein, on va l'expliquer un petit peu, hein, c'était providentiel, parce qu'il n'y avait pas de pain, il n'y avait rien du tout dans le désert. Nourrir un peuple de 2 millions d'habitants, en gros, hein, c'était l'estimation. Hein. Imaginez-vous 2 millions. Là, on voit des gens qui migrent d'un pays à un autre. Hein. Mais bon, ils viennent par milliers, par dizaines de milliers. Mais 2 millions, vous vous rendez compte, hein, ça, c'est quelque chose qui est terrible. Hein. Faut remonter peut-être à la dernière guerre, hein, pour qu'il y ait des chiffres aussi importants. Hein, les gens qui fuyaient... là, à l'avancée des Allemands, et qui allait dans toutes sortes de pays, qui migraient de droite et de gauche, ça a été colossal, hein, les migrations, ou tout simplement ceux qui fuyaient la guerre, hein, il y a encore 70 ans, enfin 80 ans maintenant. Donc on peut s'imaginer, je remets un peu dans le contexte. Alors, ils se sont plaints, parce que c'est ça la question, hein. Ils se sont plaints, il y a eu des murmures, on pourrait dire que c'était que des jérémiades. Nous ne sommes pas contents, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de pain, nous n'avons pas de viande, etc., etc. Alors, c'est des choses très primaires à la vie, hein, mais elles sont importantes quand même. Mais c'était des gens qui n'avaient pas confiance. En quelque sorte, ils pouvaient, autant les Israélites que tous ceux qui les suivaient, il y avait quelque chose qui faisait défaut, puisque Dieu leur avait montré, par des miracles extraordinaires, ne serait-ce que la traversée de la mer Rouge, que le Dieu qui les conduisait, le Dieu qui les appelait à rentrer dans le pays de Canaan, c'est un Dieu qui est tout-puissant, c'est le Dieu tout-puissant. Et il y a eu des étapes comme ça où ils ont vu des choses formidables, extraordinaires, mais très vite, leur foi, leur confiance se dissipait, et là ils se remettaient à pleurer, ils se remettaient à geindre, enfin toutes sortes de choses. Ce que je voudrais dire avant de commencer un petit peu dans le raisonnement, c'est qu'il y a dans la vie des hommes de véritables plaintes. Il y a de véritables plaintes. Quand on lit la Bible, on s'aperçoit, et particulièrement le livre des Psaumes, quand on lit par exemple les Évangiles avec Jésus, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vont s'approcher de Jésus, ou des poèmes qui nous sont donnés à travers le livre des Psaumes, où il y a des plaintes justifiées, où il y a des gens qui se plaignent, des gens qui pleurent, des gens qui crient, des gens qui souffrent, mais pour de bonnes raisons. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans le cas d'authentiques plaintes, d'authentiques cris ou pleurs, il nous est dit à un moment donné que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. La grande partie de la Bible est faite où Dieu écoute, Dieu entend. Finalement, le cri du malheureux, toutes les difficultés de la vie, toutes les difficultés que les hommes peuvent connaître hier ou encore aujourd'hui. Ça, ce sont des plaintes justifiées quand on est malade, quand quelqu'un perd son emploi, parce que Jésus nous a enseigné de demander à Dieu le pain quotidien, donc le travail. Quand il est question de problèmes familiaux, des problèmes liés à nos enfants, liés à la situation économique ou tout ce que vous voudrez, il y a des choses qui sont vraiment justifiées. Et Dieu nous a fait des promesses pour nous dire qu'il serait auprès de nous et que c'est lui qui nous délivrerait de tout cela, de toutes ces difficultés, de ces problèmes. Mais il y a de fausses récriminations. Et le texte que j'ai choisi ce soir, celui de l'histoire finalement cette révolte du peuple d'Israël dans le désert, bien que les conditions ne soient pas très favorables, néanmoins Dieu avait dit « Je vous conduirai, je vous mènerai, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin jour après jour, et je serai là pour pourvoir à tous vos besoins. » Et on s'aperçoit que devant les arguments qui nous sont donnés, devant ce qui nous est présenté, ce ne sont pas de vraies plaintes, parce que Dieu leur avait dit « Mais faites-moi confiance. » Je vous ferai rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Faites-moi confiance. » Et ils ont tellement récriminé, ils se sont tellement révoltés que normalement le voyage entre l'Égypte, leur sortie de l'esclavage, et puis le pays de Canaan qui n'était pas très très loin, hein, il y avait un désert à traverser entre eux. Et on s'aperçoit que ça devait durer à peu près 2 ans. Ça durait 38 ans de plus, c'est-à-dire 40. Imaginez-vous, ils ont tourné en rond pendant toutes ces décennies, parce que finalement, ils ne faisaient pas confiance à Dieu. Et cette situation devait leur apprendre, à faire confiance à un Dieu qu'ils ne voyaient pas. Parce qu'en Égypte, ils avaient toutes sortes de dieux. Ils avaient fait un veau d'or à la sortie, il y avait toutes sortes d'effigies, et puis ils adoraient des idoles. Mais Dieu leur a dit, moi je suis le Dieu de l'invisible. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Je suis près de vous. Je vous délivrerai, je vous guérirai, je vous secourrai. Et nous voyons que c'est ce qui s'est passé. Il y avait une promesse qui était faite, je crois, dans le prophète Jérémie. Quand il est dit cette parole, tout simplement, invoque-moi et je te répondrai. Et nous voyons qu'à un moment donné, dans cette situation, ils ont perdu complètement la notion que Dieu était avec eux. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis à se plaindre, à gémir et toutes sortes de choses. La question que nous pouvons nous poser devant telle situation, vous savez, je voudrais le dire avant, mais aujourd'hui nous sommes dans une société, un monde où il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Beaucoup de gens se plaignent. C'est vrai qu'il y a peut-être des raisons. Moi je ne veux pas discuter de social, de politique ou d'autre chose, mais les gens ne sont jamais contents et peut-être comparativement à d'autres situations, d'autres nations, d'autres peuples, on n'est quand même pas trop malheureux chez nous. Il suffit de regarder ailleurs, où les gens qui se plaignent, ce sont ceux qui n'ont jamais voyagé ou qui n'ont jamais vu ce que pouvaient être les conditions d'ailleurs. Et je pense que c'est important de pouvoir le signaler parce qu'on s'aperçoit que plus les gens ont, plus ils sont mécontents, plus ils se plaignent, plus ils sont là et bien à dire « oui, mais il me manque ceci, cela, etc. etc. » Et c'était un peu l'histoire du peuple d'Israël qui avait son Dieu, qui avait un Dieu tout-puissant et qui, quelque part, demandait encore. Hein, parce que, bon, Dieu leur a fait la preuve, il leur a donné la preuve qu'il était capable de grandes choses. Alors, la première réflexion qui peut-être peut nous interpeller les uns et les autres, quels sont les sentiments de Dieu vis-à-vis de ceux qui se plaignent sans cesse, pour tout et pour rien? Alors c'est vrai que c'est un petit peu raboteux notre sujet ce soir, mais quelquefois il n'y a pas que les gens de l'extérieur, il peut y avoir des chrétiens qui ne sont jamais contents de rien, qui sont là, et bien finalement, il n'y a pas assez, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, et qui ne vivent que, non pas un présent serein, mais qui vivent toujours en se projetant, soit en se réfugiant dans le passé en disant « mais oui, mais j'avais ceci, j'avais cela », ou alors de se projeter dans un avenir, mais vivre d'une manière médiocre le présent. Parce qu'on ne peut pas vivre sereinement le présent si finalement on est écartelé entre un passé qui a disparu et un avenir qui n'est pas fait. Et ça, c'est quelque chose qui fait que lorsqu'on s'enferme dans ce genre de considération et de réaction, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas plaire à Dieu. On l'a vu, il nous a dit « le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel », tout simplement. Et il y a certainement une leçon, parce que dans tout cela, Dieu ne nous a pas appelés à vivre notre vie dans la médiocrité, au rabais, vous comprenez, mais il nous a appelés à vivre une vie pleine et entière. Et la vérité qui ressort de tout cela, c'est que nous avons à vivre l'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je n'ai peut-être pas tout, mais ce que j'ai, je veux pouvoir finalement le considérer comme une grâce et un don de Dieu et l'en remercier. Et ça, c'est déjà le premier élément. Parce que si on commence à dire « oui, il me manque ceci, il me manque cela, j'ai vu chez l'autre, j'ai vu ici, j'ai vu cela, et puis moi je ne l'ai pas », alors à ce moment-là, c'est perdu d'avance. Et c'était bien le problème d'Israël, qui était entre l'Égypte, qui était un pays de servitude et d'esclavage, et le pays de Canaan, où il nous est dit que Dieu préparer un pays où coule le miel, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire un pays d'abondance. Mais ils étaient là, finalement, et bien tournés en rond dans le désert. Et plus ils tournaient en rond dans le désert, plus ça se détériorait leur situation. Et c'est quelque chose qui peut nous interpeller. Donc, on l'a lu, Dieu a entendu ces murmures, et il a dit, ben, puisque c'est ainsi, ben voilà, qu'est-ce que l'on peut faire? Ils ne sont pas prêts pour aller de l'avant? Puisqu'on est toujours accroché au passé, puisqu'il est en train de parler, oui, mais quand nous étions en Égypte, nous avions ceci, nous avions cela. C'est pas possible. On ne refera pas l'histoire, on ne refera pas le passé. Ce que nous avons eu, ce que nous avons possédé hier, c'est fini. C'est du consommable, en quelque sorte. Maintenant, ce qui est important pour Dieu, c'est maintenant. Et qu'est-ce que nous allons faire de maintenant? Est-ce que nous allons continuer ou recommencer à pleurer en disant, il y a ceci, il y a cela, etc.? C'est pas la vie. Dieu veut que nous soyons positif dans cette situation, et je crois que il y a toujours des gens qui quelque part sont focalisés sur ce qu'ils n'ont pas encore et qui quelque part abîment leur vie, hein. Parce que bon, une fois que l'on va avoir ce que l'on a, ben, ça va passer dans l'habitude et dans les normes, et puis on n'y pensera plus après, hein. Donc c'est toujours la course, elle est effrénée, et le monde court après cela quelque part. Et il ne peut pas être heureux, c'est pas possible. Ce que je voudrais souligner après cela, c'est les pièges et les dangers des habitudes à murmurer. Alors il y a des gens, c'est vrai, qui sont toujours en train de dire, toujours comment grincher, c'est ça, non, on peut le dire, hein, ou de broncher si vous voulez. C'est pas des mots qu'on utilise très souvent, hein. Mais c'est toujours comme ça, et ça finit par être une habitude dans laquelle il ne s'aperçoit plus. Tout n'est jamais bien. Tout n'est jamais parfait. Ça ne sera jamais parfait, hein, finalement, sur la terre. Mais de pouvoir nous contenter de ce que nous avons et de dire, eh bien, merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui. Et Jésus nous le dira, d'ailleurs, dans le sermon sur la montagne. Il nous dit, mais chaque jour suffit sa peine. C'est pas la peine, hein. Vous ne pourrez pas changer à cause de vos inquiétudes, à cause de vos récriminations, à cause de vos plaintes et de vos murmures. Vous ne pourrez pas changer les choses. C'est pas possible. Chaque jour finalement, doit être vécu, parce que c'est pas parce que nous allons nous inquiéter que nous allons ajouter un jour de plus à notre vie. Surtout que si nous ajoutons des jours de plus et que nous sommes dans le même état, ça vaut vraiment pas la peine. C'est vraiment pas, le but de tout cela. Et nous nous apercevons que dans les pièges et les dangers de murmurer ou de nous plaindre de tout et sans cesse de tout et de rien, ça crée de l'amertume dans les cœurs. Ouais, on finit par être amer parce que on est toujours déçu. La déception, c'est quelque chose, c'est une contrariété, c'est une vexation et c'est pas quelque chose de très positif. Ou alors, ça peut développer des dispositions colériques. Voilà, on le voit chez les Hébreux. À un moment donné, ils vont se dire, puisque nous n'avons pas ceci, puisque nous n'avons pas cela, nous avons un Dieu qui normalement devrait nous donner tout ce dont nous avons besoin, parce qu'il l'a dit. Mais quand Dieu dit, il nous dit pas quand et comment et où il va nous le donner. Il nous dit simplement d'attendre. Et souvent, les choses sont poussées assez fortement pour voir comment nous allons réagir. C'est une école en quelque sorte. Et vous savez, heureux ceux qui ont la foi et une foi simple, une foi modeste. Et de pouvoir dire, écoute Seigneur, moi je crois en toi, mais tu me donneras quand, comment et comme tu voudras. Et ça c'est quelque chose où Dieu répond à chaque fois. Ça c'est clair, il ne va pas nous laisser finalement dépérir. Et ça peut créer des dispositions colériques. Le monde est en colère. C'est vrai, il est en colère contre ceci, il est en colère contre cela. Il y a toutes sortes de choses qui sont faites. Mais pourtant les gens ne sont pas encore suffisamment contents ou contents tout simplement. Et cela amène à la déprime. On dit que notre pays est un pays où il y a beaucoup de déprimés. Il paraît que nous sommes le deuxième pays au monde, après les États-Unis, pour la consommation de tranquillisants de barbiturique. Vous vous rendez compte? Et nous avons un taux de suicide dans nos pays en Europe qui est assez très élevé. Je crois qu'il y a 16 à 18 000 suicides réalisés. Et quant à des tentatives, il y en a énormément. Pourquoi? Parce que les gens, il leur manque quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, c'est soit l'amertume, et c'est pas bon. C'est soit des dispositions de colère, on va se révolter, on va tout casser, c'est ce qui se passe, on le voit malheureusement. Ou alors des états de déprime, où les gens se résignent en disant « bon, on abandonne, mais c'est les frustrations, vous comprenez ?» Quand les gens sont frustrés, c'est peut-être très dangereux. Il y a un proverbe que j'ai trouvé, il est dit ceci, c'est un proverbe hindou, qui dit ceci « plus tu gémis, plus ton mal augmentera ». Et je crois que c'est vrai. Un autre nous dit gémir, se plaindre, murmurer pour un oui, pour un non, c'est tout simplement tourner le fer dans la plaie. Et c'est vrai, on ne peut pas vivre heureux quand on vit dans un état d'esprit de récrimination permanente. C'est pas possible. Et c'était le propre du peuple d'Israël au moment où nous avons lu notre texte. Et puis, il y a quelque chose qui ressort finalement de cet état, on pourrait dire, c'est que on est prompt, nous les hommes, à accuser Dieu. Quand il y a quelque chose, c'est toujours Dieu qui est le coupable. Eh oui. Et Israël qui connaissait son Dieu, le premier qui prenait, c'était Dieu. Ensuite, c'était Moïse. C'était transmis naturellement. Mais le pauvre Moïse, vous rendez compte, il a eu vraiment maille à partir avec ce peuple de 2 millions de personnes qui devait traîner dans un désert pour le conduire dans le pays de Canaan, et accuser Dieu. Ça, c'était tout simplement accuser Dieu de l'incapacité à soutenir les Hébreux et de leur donner ce qu'ils voulaient, tout simplement. On est assez arbitraire, on exige aujourd'hui. On est dans un siècle d'automatisme, un siècle de vitesse, un siècle où presse-bouton, c'est-à-dire que nous allons devant un appareil, nous mettons une pièce et puis tout de suite ça tombe. Voilà, nous voulons tout de suite. Mais dans la vie, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des choses que nous devons attendre. Et il faut bien prendre prendre raison que quand on devient chrétien, on n'est pas, Dieu n'est pas au même rythme que nous. Et si quelquefois il nous fait attendre, c'est qu'il a de bonnes raisons de nous faire attendre. Parce que pendant, nous pourrions dire latéralement, Dieu va nous enseigner des choses. C'est-à-dire des vertus, telles que la patience, tel que le support de certaines choses difficiles, mais qui vont nous donner d'acquérir dans notre caractère, dans notre vie profonde, une nouvelle personnalité. C'est ça. Aujourd'hui, c'est l'exigence. Dès qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à l'heure, on le voit avec les trains ou les avions, remarquez, on peut comprendre. Mais je veux dire que c'est toujours de la réponse immédiate. C'est de la consommation immédiate et on s'aperçoit que Dieu ne s'est pas laissé. Les Hébreux pleuraient, ils manifestaient leur mécontentement, ils se mettaient en colère, ils étaient prêts à faire la révolution. Mais c'était tout simplement accuser Dieu. Aujourd'hui, quand il y a un mal sur la terre, d'une manière ou d'une autre, qui nous parvient, on dit, les gens commencent à dire, mais c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Qu'est-ce que vous faites de l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous faites de l'autre? Parce que Dieu est là pour nous aider, pour nous apprendre, mais il ne faut pas se tromper. Et le premier qui est mis à l'accusation, c'est toujours Dieu en disant, mais tu devrais faire cela, ceci ou cela pour nous, tout simplement. Comme si c'était la faute de Dieu ce qui nous arrive. Vous savez, les Hébreux, ils ont eu beaucoup de choses qui leur sont arrivées en cours de route, dans le désert. Mais ce n'était pas de la faute de Dieu. Dieu leur avait donné une ligne de conduite. Il leur avait dit, si vous m'obéissez, si véritablement vous m'aimez, si véritablement vous marchez dans mes voies, je bénirai ton pain, je bénirai ton eau, c'est un texte biblique, et j'ôterai la maladie de toi. J'éloignerai tes ennemis de ton peuple. Et ça, c'était Dieu qui l'avait dit. Ça semblait peut-être pas très, très évident, mais toujours est-il qu'ils ont fait exactement le contraire. Ils se sont mis à adorer des idoles. Ils se sont mis à faire des faux dieux. Ils se sont livrés à l'occultisme. Ils ont tout essayé. Alors on comprend que ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Ça c'est clair, naturellement. Et ils se plaignent, ils continuent à se plaindre. Se plaindre, vrai aussi pour notre temps, se plaindre en permanence. Il y a des gens, vous ne pouvez pas les aborder. Ça va? Alors souvent, il y en a, on se débarrasse en disant, oui, ça va. Mais ça va pas. Ou alors, il y a des gens qui vous disent, ça va bien? Ils vous disent, si vous saviez. Si vous saviez ce qui m'arrive, et ils commencent parce que vous savez, ils se servent de la plainte comme une consolation. Si vous saviez ce qui m'arrive. Vous vous rendez compte, j'ai pas été reçu aux examens. Et puis ceci et cela. Et puis, mais il y en a qui prient. Et puis finalement, ils s'aperçoivent que le Seigneur leur fait grâce. N'est-ce pas? C'est pas vrai, ça. Je veux pas vous raconter l'histoire parce que c'est du tout frais. Mais toujours est-il que, au lieu de se plaindre en disant, c'est terrible, etc., etc., il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de la permanence des Jérémiades. Et vous allez les voir. Alors vous savez ce qui se passe? C'est que les gens qui se plaignent en permanence, même si ce sont des amis, des gens que vous connaissez, à un moment donné, vous n'avez plus envie d'aller les voir. Parce que vous connaissez déjà la chanson. Et on leur dit toujours la même chose. Et on répète, etc., etc. C'est terrible ça, se plaindre en permanence. Ça favorise un état d'esprit négatif dont les gens ne sont pas toujours conscients. Ils ne sont pas toujours conscients. Moi, je me plains, mais non, je me plains pas. Et quand on les écoute, on se dit, mais ils font ça. C'est terrible, ça. Dans l'évangile de Matthieu, il est donné cette petite phrase, c'est Jésus qui le dit. Et il me semble que c'est tout à fait approprié, parce que c'est comme une sorte d'aveuglement, vous savez, les plaintes qui n'en finissent pas. Vous savez ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, il dit, l'œil est la lampe de ton corps. L'œil, vous voyez, ce que je vois, qui me sert à voir, qui me donne finalement la relation avec le monde extérieur, l'œil et la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, en bonne santé, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Ce qui veut dire que quelque part tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. Si nous sommes en permanence renfermés dans un esprit de déprime, de récrimination, de plainte, où nous gênions le jour, la nuit, devant tout le monde, etc., etc., et que nous n'avons aucune parole, pour dire, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est l'œil, quelque part, et ça ne peut pas être clair. C'est l'œil de ton âme, il est parlé de l'œil du corps, qui nous sert finalement avec notre environnement, mais il y a aussi une métaphore que Jésus nous laisse, l'œil de notre âme, nous avons une personnalité, nous avons une entité, et qui est composé de notre conscience, de notre intelligence, de tout simplement, de notre volonté, de toutes sortes d'éléments de notre personnalité. Et si tout cela s'est véritablement, aveuglé, à cause finalement du négatif, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Nous verrons tout noir, nous verrons tout mauvais, nous verrons les autres mauvais, nous verrons le monde mauvais, et là, il n'y a pas d'espérance, c'est terrible. Et il y a des gens qui se sont renfermés parce que quelque part, ils ont cultivé au fond de leur cœur cette mauvaise herbe de la plainte. du mécontentement et ils ne peuvent pas s'en sortir. Finalement, l'état intérieur dans lequel ils sont a obscurci la réalité, parce que la réalité n'est pas comme ça. Elle n'est pas toujours comme ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments difficiles. C'est vrai qu'il peut y avoir de l'adversité. C'est vrai qu'il peut y avoir des combats et des luttes. Mais celui qui a la foi, c'est une lumière la foi, hein. C'est voir ce qui est invisible. Alors à ce moment-là, qu'il se repose sur la parole de Jésus, parce que lui peut nous donner véritablement, eh bien, le sens des choses justes et des choses réelles, de la réalité. Alors à ce moment-là, eh bien, nous allons voir que du négatif, et puis ça ne va pas plus loin. Jésus nous le dit, hein, si ton œil il est en mauvais état, eh bien, à l'intérieur de toi-même, ce sera exactement la même chose. Et tu ne pourras pas comprendre, et tu vas tourner en rond. Tu vas passer, comme les Hébreux, à tourner en rond pendant des années, dans ton marasme, jusqu'au jour, et on va le voir à la conclusion, jusqu'au jour où il peut y avoir la lumière qui se fait. Et là, on va dire, mais que de temps perdu! Alors, il y a différents tempéraments dans la nature humaine. Il y a des optimistes qui voient tout bien, alors quelquefois, il faudrait peut-être un peu plus modérer, parce que finalement, tout n'est pas aussi beau qu'ils le disent. Et puis, il y a des pessimistes aussi. Et les pessimistes, ils vous démantèlent un régiment. Hein. Parce que si vous les écoutez, c'est la fin du monde. Hein. Ça, c'est certain. Ça, c'est clair. Hein. Alors, on a parlé de cet obscurcissement de l'âme, du cœur, finalement, de l'intérieur. Il y a ce que nous pourrions appeler également les plaintes de l'impatience et de l'exigence. Il y a des gens qui sont tellement exigeants avec la vie, tellement exigeants avec eux-mêmes, qu'ils ne passent rien. C'est comme ça et c'est pas autrement. Si ce n'est pas comme ça, c'est pas bon. La vie, je le rappelle ce soir, elle n'est ni blanche ni noire, elle est grise. Parce qu'il y a du bien et du mal. Il y a des ténèbres et de la lumière. Il y a finalement toutes sortes de choses. Il y a la vérité, l'erreur. Il y a le bien et le mal, naturellement, on le sait, hein, ça. Donc il y a des plaintes qui sont liées à l'impatience. Ça va pas assez vite. Et il y a des plaintes qui sont liées à l'exigence. Ça devrait être comme ça, selon moi. Si ce n'est pas comme ça, alors tout est à mettre, finalement, dehors. Et ce genre de plaintes d'impatience et d'exigence témoignent d'un défaut de personnalité chez les gens. C'est l'égoïsme. Parce qu'ils ramènent tout à eux. Ils sont le centre du monde. C'est le moi, c'est l'ego, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire que tout tourne autour de leur petite personne. Si tout va mal, finalement c'est les autres. S'ils n'y arrivent pas, c'est encore les autres. C'est la faute de quelqu'un, de toute manière, on l'a dit. C'était de la faute de Dieu, hein, du temps de l'histoire que je vous ai racontée. Toujours de la faute des autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la politique, c'est la faute de ceci et cela. Non, c'est pas comme ça. Et ça, c'est véritablement, eh bien là, la prééminence de l'égoïsme de l'homme. Et on ne peut pas être heureux non plus, parce que on est dans une vie de société, il y en a autour de nous, et on sait que dans la relation qu'il peut y avoir, on peut se faire du bien les uns et les autres, hein, on peut s'encourager. Mais vous mettez des égoïstes ensemble, vous mettez des gens qui sont là, eh bien, avec cette pathologie d'impatience et d'exigence, bah, tout va mal, hein. Le monde est perdu, il n'y a plus rien à faire. Hein. Donc c'est une question d'équilibre tout cela. Nos protestations de mécontentement, on l'a vu, hein, il nous a dit le ramassis du peuple s'est mis à crier, etc., etc. Le peuple d'Israël a été complètement balayé par cet état d'esprit, ils se sont révoltés, nous n'avons plus ceci, nous n'avons plus cela, ils diront même nous, notre âme est desséchée, nous n'avons plus rien. Ce qu'il aurait dû savoir, c'est que s'il n'y avait plus rien dans le désert, en tous les cas au ciel, il y avait un Dieu qui était capable d'ouvrir les cieux. Et ça c'est une vérité aussi. Qu'il faut rappeler. Donc les protestations de mécontentement nous enferment comme dans une sorte de désert. C'est-à-dire que nous faisons le vide autour de nous, à cause de notre état d'esprit, et c'est le désert de l'ingratitude. Moi je pense que quand on est chrétien, nous ne devons pas oublier que ce que nous sommes, si nous sommes en vie, ce que nous avons tous les jours, pas toujours finalement, et bien là, dans la perfection, loin de la perfection, mais c'est encore Dieu, il est notre Créateur. Et moi, je pense qu'à partir du moment où nous avons cette reconnaissance de Dieu, si j'ai un travail, c'est encore une bénédiction de Dieu. Si j'ai encore du pain à manger, c'est une bénédiction de Dieu. Si je suis en bonne santé, c'est encore une bénédiction de Dieu. Si je peux avoir des amis, des frères, des sœurs, c'est encore une bénédiction de Dieu. Si je peux partir en vacances, c'est une bénédiction de Dieu. Moi, je veux voir les choses du bon côté, vous comprenez? Je suis pas un optimisme béat, hein, naïf, non. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui va véritablement identifier, eh bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, comme venant de la main de Dieu. Voilà. On n'est pas le produit d'un accident, comme un philosophe l'a dit, dans un univers d'accidents. Je crois que c'est Voltaire qui l'a sorti, ça. Non. Nous sommes des êtres, des créatures de Dieu. Et nous ne sortons pas seulement de la poussière, même si finalement, eh bien, que nous sommes que de l'humus. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous sommes nés de l'esprit. Et c'est ça la grande différence. Nés d'une dimension de l'esprit, parce que Dieu est esprit. Et la différence qu'il y a entre lui et nous, c'est que nous ne pouvons pas voir, puisque nous nous sommes corporalisés, nous sommes incarnés, et que lui, il est dans la dimension spirituelle. C'est ça la grande différence. Alors, ce désert de l'ingratitude dans lequel nous vivons dans notre monde, vous vous rendez compte? Ne pas reconnaître toutes les évolutions de la société, des gens qui ont peut-être donné leur vie pour que nous puissions trouver des solutions à la maladie et à la souffrance des hommes, de pouvoir avoir un pays où nous avons tout en suffisance. Mais il y a bien des gens qui se sont... La Révolution française, il y a du sang qui a été coulé. Et quand on dit, ben non, mais c'est venu comme ça, c'est... Là, vraiment, c'est une méconnaissance. Alors, moi, je crois que derrière les hommes, derrière l'intelligence des hommes, devant les progrès de la société, même s'il y a des sous-progrès, des sous-produits du progrès, une chose qui est certaine, c'est quand même Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour faire ceci et cela, pour le bien de l'humanité. Et ça, moi, je veux le voir. Je veux considérer que je suis pas né le jour où le monde a commencé, le jour où je suis né, hein, pas du tout, hein. C'est pas ça, hein. Donc, il y a des hommes qui se renferment dans le désert de l'ingratitude, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont tourné en rond pendant 40 ans, tout simplement. Et il y a des gens qui n'en sortiront jamais, parce que leur état d'esprit est négatif, tout simplement. Et cela nous éloigne, finalement, de la terre promise, comme eux, dans notre texte, la terre promise qui est l'emblème de la bénédiction et du secours divin, tout simplement. Vous savez que c'est quelque chose de formidable d'avoir la foi. Non pas une croyance religieuse, mais la foi, je le répète, au sens où Dieu nous parle à travers sa parole, que je crois à sa parole et que cette parole devient vivante pour moi. Et elle répond à mes besoins, mes attentes et mes espérances. C'est quelque chose de concret, quelque chose de vécu. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, dans ses problèmes ou ses difficultés, dans ses aspirations et dans ses désirs, au-delà finalement des contingences matérielles, a découvert que Dieu est réel, que Dieu est vivant et qu'il répond à nos prières, qu'il répond à la prière de la foi. Ça, c'est important. Et puis, se plaindre, c'est aussi rejeter la mesure de grâce que Dieu nous a faite. Vous savez que Dieu nous a fait grâce à travers Jésus-Christ. Que même, il y a un texte, c'est l'apôtre Paul qui le dit, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les bonnes et les mauvaises, enfin les mauvaises aussi. Que Dieu est capable de changer le mal en bien. Et c'est une réalité tout cela. Hein. Donc c'est une mesure de grâce. Pour ceux, la plupart d'entre nous qui sommes là, nous avons cru à la grâce de Dieu. Pas à la condamnation de Dieu, pas au jugement de Dieu, mais à la grâce de Dieu. Parce que, justement, il nous a fait grâce dans le jugement et dans la condamnation. Et pour nous, eh bien, les choses sont beaucoup plus simples. Et Dieu nous réserve cette grâce, et c'est à nous de la saisir par la foi. On ne le mérite pas. Ce n'est pas nos qualités d'homme qui vont faire la différence. C'est parce que je crois, justement, que c'est lui qui donne la force et la joie du contentement et, tout simplement, de la satisfaction. Je voudrais simplement vous encourager. Moi, je voudrais vous dire que je suis heureux. Heureux de connaître le Seigneur. Je ne l'ai pas toujours connu, mais le jour où il est venu dans ma vie, il a transformé mon existence. Et c'était véritablement un avant et un après. Hein. Et c'est vrai qu'il faut le dire. Moi, je ne suis pas un prophète de malheur qui, en disant, voilà, il y a ceci, il y a cela, etc., c'est terrible. Non, moi, je voudrais toujours regarder qu'il y a en toute chose que Dieu nous a donné dans sa grâce et le reconnaître, eh bien, qu'il y a quelque chose de bon. Et à ce moment-là, ça change, finalement. C'est le jour et la nuit, nous pourrions dire, dans notre existence. C'est la foi. On se renferme dans une prison de solitude trop souvent. Parce que ces plaintes nous renferment dans... Et celles nous éloignent des autres. Je voudrais simplement dire deux ou trois mots, toujours, dans le sermon sur la montagne que Jésus nous laisse, dans Matthieu chapitre 6, quand il est dit ceci... Alors, on a lu tout à l'heure que, finalement, si mon œil est en mauvais état, eh bien, tout est mauvais. Mais vous savez, il dit ceci aussi, un peu plus loin. C'est pourquoi Jésus nous dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce quoi vous serez vêtu. » On revient aux récriminations des Hébreux. Nous n'avons pas de ceci, nous n'avons pas de cela, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de viande, nous n'avons pas... Écoutez ce que dit Jésus. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. C'est un miracle et c'est un prodige. Vous avez vu déjà les oiseaux qui vont faire leurs courses au supermarché et puis... Non? Tout ce qui vit sur la terre, ce soit dans le ciel, ce soit sous les mers, que ce soit sur la terre, ils ne s'inquiètent pas, ils ont la nourriture au temps convenable, ils ont la nourriture en abondance, par exemple, dans cette saison, et puis, voilà, et c'est pas pour ça qu'ils meurent, c'est pas pour ça qu'ils disparaissent de la création, Dieu les renouvelle continuellement. Mais nous, les hommes, nous mourons d'inquiétude de savoir qu'il peut nous manquer quelque chose. Nous mourons d'inquiétude en savoir que, finalement, eh bien, ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons le perdre. Et nous sommes terrorisés à l'idée, mais qu'est-ce que nous avons? Notre vie est plus importante que ce que nous possédons. Ce que nous sommes, c'est-à-dire l'être, est plus importante que notre avoir. Et ça, faut le comprendre. Parce que tant qu'on n'aura pas compris ça, on sera malheureux. Si nous vivons en raison de notre avoir, de nos richesses, de notre situation, de notre réputation, de ceci et cela, mais nous serons toujours malheureux, nous n'aurons jamais assez, et nous courons toujours après quelque chose d'autre. Mais soyons heureux de ce que nous sommes. J'ai pas grand-chose. Mais ce que j'ai, je remercie tous les jours le Seigneur de me l'avoir donné, et ça me suffit. Oui, je suis pas un pauvre, hein, vous t'agacez pas, hein. J'ai plusieurs chemises, hein, chez moi, vous t'agacez pas, hein. Rassurez-vous. Mais une chose que je voudrais dire, hein, c'est que le monde est malade. Le monde tourne en rond dans son désert. Pour une bonne raison, c'est que quelque part, il n'a pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la vie. Ouais, la vie est plus que le corps. Notre vie est plus que la nourriture. Parce que Dieu a promis qu'il nous donnerait ce dont nous avons besoin. Regardez. Il ne sème, ni ne moissonne, ni n'amasse pas dans les greniers, et votre Père céleste est nourri. Ne valez-vous pas plus que les petits oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter quelques heures, quelques jours, une durée une coudée à la durée de sa vie? Mais pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ce sont non pas des animaux, mais des végétaux. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme le lys qui se trouve dans les champs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four ou balayée, ne vous vêtira-t-il pas plus? À plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point, nous dit Jésus, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, votre Père céleste. Si vous avez la foi dans le Père céleste, il sait que vous en avez besoin et vous ne manquerez de rien. C'est la détente, hein. Je peux vous dire que on ne manque de rien quand on a la foi en Dieu, puisque c'est lui qui est notre créateur, c'est lui qui nous a donné la vie, et c'est lui qui va nous donner tout ce qui est nécessaire pour entretenir cette vie. C'est la paix. C'est le repos. C'est la grâce de Dieu. Tout simplement. Alors on a parlé de la manne, ce pain qui descendait du ciel. On a parlé d'écailles, nous voulons manger de la viande. Eh oui. Alors Dieu va faire un miracle. On appelle ça de l'historico-critique en théologie. Et tout simplement, Dieu est capable de ramener finalement, eh bien là, toutes ces volées de cailles par milliers, comme les sauterelles dans le désert. Et elles vont s'abattre tout simplement sur le peuple d'Israël. Et là, ils ont demandé de la viande, ils vont en avoir. Mais ils vont en avoir. Ils vont en manger. À un moment donné, en faire une indigestion, même les ailes d'écailles vont leur sortir par les oreilles, vous rendez compte, et par les narines. Parce que quand on veut provoquer Dieu, ça s'appelle tenter Dieu. Quand on veut tenter Dieu, Dieu va nous dire, tu le veux? Je sais que c'est pas bon pour toi. Mais tu le veux? Ouais, Seigneur, je le veux. Tu me le donnes. J'exige que tu me le donnes. Seigneur dit, bah, tu vas l'avoir. Vous savez, quand on mange trop de chocolat, je sais pas s'il y a des gourmands chez vous, là, enfin, non, hein. Mais quand on mange trop de chocolat, quand on mange des gourmandises, et qu'on sait, on dit, attention, tu vas avoir une crise de foie. Mais pas, ça s'écrit pas pareil. Vous avoir une crise de foie. Mais j'aime. Eh ben, vous allez voir. Vous allez entendre les cailles, hein. Vous allez les entendre voler, hein. Dieu dit, bah, tu le veux, tu vas l'avoir. Tout simplement. Et Dieu nous donne, selon nos caprices, selon ce que nous voulons, et là, nous allons prendre une grande leçon. Que quelque part, quand Dieu nous dit, attention, fais bien attention, parce que tu vas te rendre malade. Eh bien, c'est ce qui arrive. Et c'est pas tant une maladie hépatique, ou gastrique, ou tout ce que vous voudrez, c'est surtout de nous rendre malade au niveau de notre âme. Les gens sont touchés par la gloutonnerie de ce monde. Alors ils prennent ceci, cela, c'est bon, c'est pas bon, etc. Mais ils en veulent. Et à un moment donné, ils deviennent malades. Ils tombent dans la dépression. Ils tombent dans toutes sortes de neurasthénies. Ils n'en veulent plus. Regardez les gens qui sont comblés de tous les biens de la terre. À un moment donné, ils finissent par se donner la mort parce que ils n'en peuvent plus. La vie n'a plus de sens. Ils ont tout. Plus rien ne les intéresse. Et ça va jusqu'au dégoût. C'est vrai, ça va jusqu'au dégoût. Il y a des gens qui sont dégoûtés de la vie. Vous savez, les plaintes, je termine, les plaintes, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Il peut y avoir une véritable souffrance. Il peut y avoir véritablement un cri sincère et véritable avec des choses qui sont réelles. Mais c'est une souffrance intérieure et personnelle dont Dieu a la solution. Et ce soir, si nous en parlons, c'est que Dieu ne veut pas nous priver de ceci et cela, mais peut-être il veut nous guérir de nos plaintes, de nos murmures, de nos caprices, de tout ce qui, quelque part, eh bien, va nous empoisonner dans notre vie future, et peut-être empoisonne notre vie présente. Alors la question qui peut se poser, suis-je, c'est moi, je me la pose à moi-même, mais suis-je porté naturellement à me plaindre, finalement, souvent, là où je pense que rien ne va? Et plus je pensais que rien ne va, eh bien rien n'ira. Tout simplement, parce que c'est une mentalité, c'est un état d'esprit, c'est une pensée dominante. Puis la deuxième chose, qui est la solution, suis-je disposé à laisser Dieu d'abord, oui, d'abord Dieu, à laisser Dieu à changer mon état de pensée, de réagir devant les situations dont je suis conscient d'être esclave et prisonnier. Alors, c'est une réflexion qui a quand même son sens. Si quelquefois nous nous sentons un petit peu coincés aux entournures, comme on le dit, si quelquefois nous avons cette propension à toujours voir le côté négatif, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Eh bien, il y a Dieu qui peut nous changer. On va pas changer tout seul. Vous pouvez aller voir les psychologues, un psychiatre, etc., etc. Il va peut-être vous donner quelques conseils, mais ça vous changera pas. Parce que c'est pas de changer les conditions. C'est d'être changé à l'intérieur. Et après, les conditions changeront. C'est l'inverse de ce qui se passe, vous comprenez? Et est-ce que nous sommes décidés à dire, Seigneur, eh bien, je me tiens devant toi. Je te demande maintenant, moi qui suis souvent négatif, moi qui suis neurasthénique, moi qui n'ai toujours que beaucoup de tristesse dans mon cœur, je voudrais changer, je voudrais être joyeux. Et vous savez ce que je vous dis ce soir? Ça paraît pas comme ça. Hein, parce que bon, mais moi, c'est comme ça que le Seigneur m'a pris. Hein. Quand j'étais jeune ou plus jeune, c'était dans la famille, hein. Et c'est vrai qu'il y avait toujours cette mélancolie, cette neurasthénie, et c'était vraiment difficile. Et je peux dire que on a prié, nous avons prié, et vraiment le Seigneur a changé les choses. Moi, je crois qu'il a changé les choses, parce que je suis quand même pas un prédicateur qui vous fait pleurer tous les jours, non, quand même. Hein. Oui, il y a quand même un petit peu d'humour quelque part. Hein. C'est parce que le Seigneur est capable de faire des miracles et de changer finalement l'intérieur des gens. Tout simplement. Je voyais tout noir. Je voyais le pire. Je voyais la mort. Puis le Seigneur a dit maintenant, tu vois, eh ben, tu vas pouvoir le dire aux autres, tu vas le prêcher, et tu vas dire aux autres que c'est possible. Alors si vous avez une tendance à la neurasthénie, à la dépression, et à voir les choses perdues d'avance, eh bien le Seigneur est capable de vous changer et de vous transformer, comme il l'a fait moi-même. Je suis pas un cas unique, mais je sais que je sais par où je suis passé. La neurasthénie, c'est quelque chose. Hein. Naturellement, c'est quelque chose. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. C'est Paul qui le dit dans Philippiens. Oui. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous avez besoin, mais Dieu va pas vous les refuser. Mais il faut pouvoir avoir cette disposition intérieure de positivité. Et puis je finis avec le livre des... Mais je ne veux pas le commenter, hein, mais simplement le livre des Proverbes. Vous savez ce qu'il est dit dans le livre des Proverbes ? C'est beau, moi je trouve que c'est formidable. Au chapitre 15 et au verset 13, il est dit ceci. Un cœur joyeux rend le visage serein. On voit bien la différence quand les gens sont tristes, hein, fermés, et on sait que ça va pas. Mais il nous a dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. C'est terrible. Et là, pour faire redémarrer quelqu'un, c'est difficile. Un cœur intelligent cherche la science. Et cette science n'est autre que ce que nous enseigne la parole de Dieu. Mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Oui, mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor avec le trouble. Et toutes sortes de choses, vaut mieux de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour. Quand il est dit, mais le cœur content est un festin perpétuel. Moi, je vous souhaite que vous soyez vraiment content. Comprenez? On est content ensemble? Bah, faites-moi un sourire quand même, parce que moi, je vais travailler là. C'est vrai? Le cœur content est un festin perpétuel. Et moi, je dis, quand on est chrétien, eh bien, on a tous les moyens d'être heureux par la grâce de Dieu, même quand tout va mal. C'est vrai, hein? Il y a quelqu'un qui a écrit, vous l'avez entendu déjà, hein? Un chrétien triste est un triste chrétien. Un chrétien triste est un triste chrétien. Donc il n'a pas de vie, quelque part. Mais Dieu est venu nous apporter la vie, et cette vie, nous la cherchons auprès de lui. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as parlé ce soir, eh bien, tout simplement, des cailles de la discorde. Et nous croyons que ces cailles, qui sont souvent la convoitise père éternelle des hommes, parfois même des enfants de Dieu, des chrétiens, eh bien, ils ne savent pas, Seigneur, que, en se refermant, Père éternel, sur eux-mêmes, en se plaignant, Seigneur, de ce qui leur manque, de ce qu'ils n'ont pas, en se plaignant de toi, notre Dieu, qui est tout-puissant et qui est capable de nous donner, non pas les bonnes choses, mais les choses les meilleures, alors à ce moment-là, nous pouvons, en effet, errer dans un désert sans fin. Je te prie, Seigneur, que tu nous bénisses. Je te prie, Seigneur, que ta parole puisse éclairer nos cœurs. Et que, ainsi, Seigneur, en effet, un cœur content, eh bien, est un festin perpétuel, permet que je cherche tous les jours, à chaque moment de ma vie, ce qui est le meilleur, ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui amène, eh bien, Seigneur, de la joie autour de moi, et de voir que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une solution. Oui, tu nous le rappelles, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce dont vous serez vêtus. Parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, et nous voulons te dire en réponse, Seigneur Jésus, je mets ma confiance en toi. Je ne te vois pas, tu es invisible, mais je sais que tu es là. Merci Seigneur, merci Jésus, et délivre tous ceux qui invoquent ton nom maintenant, pour être libérés de ce poison de la plainte, du murmure, de la critique, de tout ce, en effet, de ce mécontentement qui envahit l'esprit de notre monde, et qui quelquefois envahit le cœur des enfants de Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.